19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Le président conteste cette condamnation. Cette condamnation suscite à la fois notre incompréhension, mais aussi, je dois le dire, notre indignation.
Indignation et incompréhension de l'avocate de Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État condamné à de la prison ferme dans l'affaire dite des écoutes. Il va faire appel du jugement.
Nicolas Sarkozy écope de 3 ans de prison, dont un ferme, même peine pour l'avocat Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert.
Il faut tenir combien de temps? Entre 4 et 6 semaines. Emmanuel Macron, en visite en région parisienne, fixe un cap sans que l'on sache très bien s'il s'agit d'une levée ou d'un allègement des restrictions.
À Nice et sur une large partie des Alpes-Maritimes, on vient de vivre le premier des deux week-ends de confinement, mesure plutôt bien suivie. On le verra et c'est ce que nous dira notre correspondante sur place.
En Syrie, une mission parlementaire française veut rencontrer des djihadistes retenus prisonniers dans l'espoir de les rapatrier en France. L'œil de Didier François dans ce journal. Et puis l'OM fait sa révolution. Nouveau président, nouvel entraîneur et l'actionnaire jusque-là très discret est allé à la rencontre des supporters.
La météo, Anissa Haddadi, du soleil pour tout le monde. Comme ça, c'est entendu. Sauf en Bretagne, la petite exception.
Oui, sur la Bretagne et les Pays de la Loire, nous aurons une toute petite dépression demain qui va apporter des nuages et des petites pluies en fin de journée. Ailleurs, ce sera à nouveau une belle journée printanière avec des températures très douces l'après-midi. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'est un coup de tonnerre judiciaire. Nicolas Sarkozy est donc reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. 3 ans, dont un ferme. L'ancien chef de l'État annonce qu'il va faire appel. Mais en attendant, les juges ont estimé que les faits étaient avérés, Guillaume Bier.
Et oui, dans ce jugement, le tribunal souligne la particulière gravité des faits pour lesquels Nicolas Sarkozy est condamné. Corruption et trafic d'influence. L'ancien président est jugé coupable de s'être, je cite, « servi de son statut et de ses relations diplomatiques ». Pour gratifier un magistrat ayant servi son intérêt personnel, écrivent les juges, qui ont donc prononcé à son encontre 3 ans de prison, dont un ferme. Même condamnation pour Gilbert Azibert, le haut magistrat au cœur de cette affaire, et pour son ami Thierry Herzog, avocat de Nicolas Sarkozy, qui écope également d'une interdiction d'exercer pendant 5 ans.
Bien, Guillaume, en clair, le tribunal n'a pas retenu les arguments de défense de l'ancien chef de l'État.
Non, et c'est d'ailleurs ce que pointent ce soir les avocats des prévenus. Ils estiment que la décision des juges ne reflète absolument pas ce qui s'est dit lors des 3 semaines d'audience. À l'époque, ils avaient dénoncé un désert de preuves. Nicolas Sarkozy avait passé plusieurs heures à la barre pour démontrer son innocence. Lui qui voulait être lavé de cette infamie, selon ses mots. Eh bien, en réalité, le tribunal a estimé qu'il y a bien eu pacte de corruption, comme en témoigne les propos enregistrés sur écoute de la fameuse ligne clandestine au nom de Paul Bismuth, d'où ces condamnations jugées sévères, notamment par l'entourage de l'ancien chef de l'État qui a fait appel, tout comme les autres prévenus, ce qui veut dire qu'il y aura un second procès.
Merci Guillaume Bier du service police justice d'Europe 1. À droite, beaucoup de réactions qui condamnent cette condamnation, c'est le cas de le dire. Une peine disproportionnée, sévère, dit par exemple sur Twitter le patron des députés Les Républicains, Christian Jacob. Le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, parle lui d'une condamnation extrêmement dure dans un dossier, je cite, particulièrement faible.
La crise sanitaire, combien de temps avant d'envisager une éclaircie? Emmanuel Macron a peut-être donné un début de réponse.
Oui, ou pas d'ailleurs, puisque le chef de l'État répondait à un jeune de Seine-Saint-Denis qui lui expliquait combien il trouvait le temps long, le temps du couvre-feu, un peu long. Emmanuel Macron lui a donc répondu, je le cite, « Il faut tenir encore 4 à 6 semaines, Victor Dolande, à quoi correspond cette fourchette? Telle est la question.
Alors, il faut bien comprendre que la France est actuellement confrontée à une situation épidémique tendue, avec des variants désormais majoritaires, et un nombre de cas qui augmente depuis plusieurs jours. Le chef de l'État veut maintenir son cap, celui de ne pas confiner le pays, et il sait que ça va dépendre de plusieurs facteurs. D'abord, l'avancée de la vaccination. Demain, la Haute Autorité de Santé pourrait autoriser le vaccin AstraZeneca aux personnes de plus de 65 ans, ce qui devrait permettre de cibler beaucoup plus de personnes qui ont des facteurs de risque. Et plus le nombre de personnes vaccinées augmentera, plus ça fera chuter le nombre d'hospitalisations et de décès. Deuxième facteur, le temps. On le sait désormais, la météo a une influence directe sur le Covid. Et si les températures remontent dans les prochaines semaines, à l'approche du printemps, ça pourrait faire diminuer les contaminations. Enfin, dernier facteur, le président de la République mise sur des mesures territorialisées pour contenir l'épidémie, comme c'est le cas actuellement à Nice, à Dunkerque, et bientôt peut-être dans 20 départements qui connaissent une circulation du virus soutenue. Pour résumer, donc, dans les 4 à 6 semaines qui viennent, si la campagne de vaccination accélère, si les températures sont suffisamment clémentes et si les mesures locales appliquées ici et là sont efficaces, on verra peut-être le bout du tunnel dans le courant du mois d'avril.
Victor Dolande, en écho aux propos du président Macron, la ministre des Sports affirme que le sport amateur ne pourra pas redémarrer avant un mois, une reprise qui pourra se faire en intérieur et en extérieur, mais de manière progressive. et en fonction de la situation, dit la ministre.
Paris dit non au confinement le week-end. Anne Hidalgo l'a fait savoir aux autorités cet après-midi.
Oui, la mairie de Paris préférerait qu'on laisse davantage la possibilité aux Parisiens ou aux Franciliens de profiter des jardins, des parcs et des quais plutôt que d'envisager un confinement les samedis et dimanches auquel elle se dit opposée. Anne Hidalgo demande aux autorités sanitaires de multiplier par ailleurs par 4 les vaccinations.
Voilà, pas de reconfinement souhaité par la maire de Paris pour le week-end pour l'instant, mais dans le nord comme à Dunkerque ou dans les Alpes-Maritimes, c'est une réalité.
Oui, à Nice, on a vu la promenade des Anglais de loin ou alors juste de sa fenêtre, et pour cause, une grande partie des Alpes-Maritimes du département ont dû rester à la maison ce week-end.
Oui, le premier des deux confinements obligatoires. Frédéric Michel, vous êtes notre correspondant à Nice. Les autorités viennent donc de faire un premier bilan.
Et le préfet a salué le civisme des habitants des Alpes-Maritimes sur un peu plus de 22 000 contrôles de police et de gendarmerie ce week-end. 5% seulement des personnes étaient en infraction. 1200 PV ont été dressés. La population a majoritairement joué le jeu, se munissant pour faire des courses, se balader une heure ou pour des déplacements impérieux de son attestation de sortie. Et le préfet a insisté. Il n'y a pas eu d'exode vers les stations de ski ou le Var. Le bilan de ce premier week-end de confinement est donc plutôt positif pour les autorités. Lydie et sa maman Annie ont un autre avis. Ces deux Niçoises ont profité de ce lundi pour s'aérer.
Aujourd'hui, on peut sortir, on en profite, il fait beau.
On ne comprend pas trop parce qu'enfermé le week-end, mais arrivé la semaine, on est tous dehors, aller travailler, tout ça.
C'est pas très cohérent.
Des doutes aussi pour Thomas et son amie Alexia.
C'est vraiment une atteinte à la liberté, ce qui se passe. Confiné juste le week-end, je ne sais pas si ça va changer vraiment quelque chose.
Moralement, mentalement, déjà préparé depuis le temps que ça dure et prête à endurer. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'on va aller vers un durcissement encore plus sévère.
Et d'ici vendredi, d'autres départements pourraient être confinés, comme le Var, le département voisin des Alpes-Maritimes, où le virus circule très largement.
Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice, en Corse. La préfecture annonce la prolongation jusqu'à nouvel ordre des tests anti-Covid. Toute personne souhaitant se rendre sur l'île de Beauté devra fournir avant le départ un test PCR de moins de 72 heures.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h08, la suite du journal. On parle maintenant de cette délégation parlementaire française qui voudrait entrer en Syrie pour y rencontrer les djihadistes détenus par les Kurdes. On en parle ce soir avec notre spécialiste des affaires internationales. C'est l'œil de Didier François, comme tous les soirs à 19h. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors c'est un voyage organisé par les avocats d'une dizaine d'islamistes qui ont entamé une grève de la faim pour réclamer leur retour en France.
Absolument. C'est un peu le point d'ordre d'une campagne conçue pour faire pression sur le président de la République et dont l'objectif clairement c'est d'obtenir le rapatriement des femmes djihadistes d'origine française détenues au Kurdistan syrien depuis la chute de l'État islamique, c'est en février 2019. L'argument principal mis en avant par les avocats et par les familles étant évidemment les conditions des tensions extrêmement rustiques que subissent depuis 3 ans les quelques 120 Françaises et leurs 300 enfants dans les camps d'Al-Hol et de Rojj. Alors ce sont loin d'être des lieux de villégiature, ça ne fait strictement aucun doute, hein. Les accès à l'eau, aux soins, parfois à la nourriture sont limités, les hivers sont rudes, les étés sont chauds, mais ce qu'oublient systématiquement de rappeler leurs défenseurs, c'est que c'était déjà le cas lorsqu'elles ont décidé de rejoindre Daesh, sans que d'ailleurs personne ne les y force. Qu'elles se sont accommodées sans jamais se plaindre à l'époque des bombardements ou des exactions commis pendant 5 ans par ce califat auquel elles ont apporté volontairement leur soutien jusqu'à son dernier jour, qu'elles n'ont jamais condamné, bien au contraire, le massacre des chiites, l'esclavage des yézidis, la crucifixion des chrétiens, les défenestrations d'homosexuels ou même les attentats du Bataclan, qu'elles ont procréé volontairement pour regarnir les rangs djihadistes, que leurs enfants étaient envoyés dès le plus jeune âge se former dans des camps militaires des lionceaux du califat. Certains étaient même présents au cours de séances de torture, d'otages ou de prisonniers avec leur père.
Oui, mais enfin, Didier, ces enfants sont quand même des victimes.
Alors oui, ce sont des victimes, mais d'abord des victimes de leur mère, qui se servent d'eux comme d'un moyen de chantage pour obtenir la sortie des camps kurdes en refusant de signer les papiers qui permettraient de rapatrier légalement leurs enfants, car c'est ce que fait le gouvernement français. 35 orphelins ont déjà été pris en charge et placés dans des structures spécialisées, parce qu'il est évidemment hors de question de laisser ces enfants traumatisés à la seule garde de leurs grands-parents. Il y a donc une sorte d'indécence à vouloir faire passer ces djihadistes grévistes de la faim pour des victimes du système démocratique et de tenter de faire oublier leurs crimes. C'est même la définition du négationnisme. Alors à la limite, ça peut se comprendre de la part de leurs avocats, c'est leur rôle, mais ça l'est quand même beaucoup moins de la part des élus de la République qui les accompagnent dans cette démarche.
Didier L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h. Peut-être un premier pas toujours à l'étranger vers la résolution de la crise en Arménie.
Le chef du gouvernement propose des élections législatives anticipées pour ramener le calme. Alors que les manifestations pro- et anti-gouvernementales se succèdent, le pays traverse une grave crise politique depuis la défaite militaire face à l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh.
À Marseille, le propriétaire de l'OM part en reconquête.
Il avait promis de faire le déplacement. Franck McCourt est arrivé ce matin en jet, un objectif en tête, renouer les liens avec les Marseillais. L'homme d'affaires a commencé par là où on doit toujours commencer, la mairie, où il est allé rencontrer le maire. Benoît Payan lui a demandé de pacifier les relations avec les supporters. Et c'est justement ce qu'il est en train de faire. Et cela ne pouvait pas se passer ailleurs qu'au Vélodrome, évidemment, Stéphane Frangy.
Oui, des réunions menées séparément avec les différents représentants de groupes de supporters. Après les tensions qui ont abouti, on s'en souvient, aux violences de la commanderie, Rachid Zeroual, le vice-président des Winners, a ouvert le bal.
C'était intéressant, c'était sympathique. Il nous a rassurés du fait qu'il nous a dit que le club n'était pas à vendre, qu'il fallait lui laisser du temps. Après, par la suite, on a parlé de ce qui s'est passé à la commanderie. C'est nous qu'on a organisé cette manifestation, elle nous a échappé des mains. On s'est proposé de rembourser les dégâts pour qu'il y ait une discussion intelligente.
Sans oublier d'aborder, bien évidemment, le dossier ô combien sensible des mises en demeure des groupes de supporters.
La mise en demeure, c'est fini. Du fait qu'on ait reconnu même qu'on s'excusait pour ce qui s'était passé, voilà.
Voilà, on semble se diriger vers un retour sur de bonnes bases avec Franck McCourt, l'homme d'affaires, qui poursuit ses réunions diplomatiques accompagné de son nouveau président Pablo Longoria. Nous venons d'ailleurs de les voir passer à l'instant sous bonne escorte, rejoindre des supporters dans le salon d'un hôtel voisin du stade Vélodrome.
Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille.
Merci mon cher Christophe, c'était le journal de Christophe Lamar. La météo avec Anissa Dadi qui nous annonce un mardi ensoleillé.
Oui, sauf sur l'ouest. On en a parlé tout à l'heure, de la Bretagne au Pays de la Loire. Après la dissipation des nuages bas, le ciel est un petit peu plus menaçant sur ces régions avec quelques petites averses. En fait, c'est une très légère dépression qui arrive par l'Atlantique et qui va donc toucher la pointe bretonne demain après-midi avec allez, quelques petites gouttes, mais rien vraiment de très inquiétant. Au nord de la Loire, en Ile-de-France, sur les Hauts-de-France et le Grand Est, là, nous aurons de nombreux brouillards le matin qui vont se dissiper à la mi-journée et le soleil va briller généreusement partout ailleurs, sur toutes les régions situées au sud de la Loire. Ce sera un mardi printanier très ensoleillé. Sur le Languedoc-Roussillon, nous avons toujours le vent d'autant qui souffle jusqu'à 80-90 km/h demain. Les températures, elles sont fraîches le matin avec moins 3 à 10 degrés. Et dans l'après-midi, c'est toujours très doux pour la saison. Avec 12 à 20 degrés, nous aurons par exemple 17 degrés à Paris et jusqu'à 20 degrés dans le Pays Basque.
Merci ma chère Anissa, on vous retrouve demain évidemment
bonne
à partir de 18h.
Europe 1, écoutez le monde changer.